tu as écrit sur les présocratiques et tu les as traduits. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers les socratiques aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu as appris des socratiques?
Je voudrais seulement me rappeler que je voudrais m'oublier un peu de ma personne et laisser vivre quelque chose qui me reste des peuples qui n'est personne, mais qui est toujours là. À part le peuple, j'ai lu, commenté, traduit toutes ces quantités de sages, de gens plus ou moins sages, etc. Et en général, il s'agissait de faire vivre les morts. Quelques-uns des morts, parce que par malheur, comme chez les vivants, ce qu'il faut dire pour maintenir l'ordre, etc. Mais il y en a qui ont su dire non d'une façon plus ou moins claire. Et sont ceux-là que j'ai cherché, qui m'ont servi.
Pour toi, l'écriture, c'est quoi ça? C'est un instrument de domination ou un instrument d'émancipation?
Avec le commencement de l'histoire, comme quelque chose qui, pour les lois, pour écrire les lois, il n'y a pas des lois qui ne soient pas écrites. Les lois sont l'écriture. Ce qui est pour moi surtout douloureux, qu'on continue à confondre la langue avec l'écriture. La langue est du peuple, n'est de personne. Et quand on parle une langue quelconque, des autorités, des lois, de l'argent, etc., l'écriture n'est pas comme ça. L'écriture est au service, entre autres, à l'information des médias, etc., qui contribue à faire croire que la réalité est ce qu'elle est, que c'est comme ça, etc.
À propos de l'écriture, Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose.
La escritura tiene un rasgo esencial que la saca fuera de la realidad y es que es gratuita, no cuesta dinero. La escritura no cuesta dinero, es gratis. La lengua frente a la escritura tiene un rasgo esencial y es que la lengua es lo único gratuito, lo que se le da gratuitamente al cachorro de hombre cuando nace, entra en el lenguaje y no es una enseñanza consciente, es absolutamente inconsciente, automática. Uno habla así de bien como habla gracias a la condición de que no sabemos lo bien que hablamos.
Oui, la différence entre le langage et l'écriture, c'est que, contrairement à l'écriture, le langage est gratuit. C'est-à-dire que le langage, c'est quelque chose qu'on acquiert quand on est enfant, et c'est quelque chose qu'on pratique durant toute une vie, et ça n'a rien à voir avec un rapport marchand.
La réalité est essentiellement dinero, et plus aujourd'hui, que estamos en el régimen del dinero, que es el régimen de las sociedades democráticas desarrolladas, el régimen llamado primeramente del bienestar. Y ahora es el régimen del dinero. Y hoy día no hay distinción alguna entre política y economía. No hay más que dinero, que es lo que rige el mundo.
La réalité a une relation directe avec l'argent, surtout aujourd'hui où nous vivons sous le régime de l'argent. Ce régime est le régime des sociétés démocratiques développées. Le régime appelé le régime, dans un premier temps du bien-être, est aujourd'hui devenu le régime de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre politique et économie. Il n'y a plus que l'argent et c'est lui qui régit le monde.
Por lo que viniendo al tema que Isabel ha tomado, es por lo que por todas partes se confunde la lengua con la escritura, sobre todo la información, aun cuando se trate de imágenes es lo mismo, sigue siendo también la televisión escritura en lugar de lengua.
Pour revenir à ce que vient de dire Isabel, on confond toujours la langue avec l'information. Lorsqu'il s'agit des images, c'est la même chose. La télévision, c'est toujours l'écriture au lieu d'être la langue.
Yo decía que la realidad es igual que el dinero, es sinónimo de dinero, y la lengua es lo único que se escapa de esa condición dineraria de la realidad frente a la escritura, que ya es de los poderosos, del poder. Y esto es hoy día más que nunca, puesto que el régimen que domina las sociedades tecnodemocráticas avanzadas, es el régimen de, antes se llamaba del bienestar, pero vamos a llamarle desengañadamente el régimen del dinero, en lo cual no hay distinción entre política y economía. Son los mismos, Estado que los banqueros, son los mismos.
La réalité est la même chose que l'argent et la langue est la seule chose qui échappe à cette condition marchande. L'écriture est aux mains des puissants, de ceux qui ont le pouvoir. Et cela est plus que jamais vrai, étant donné que c'est le régime qui domine dans les sociétés techno-démocratiques, celui qu'on appelait le régime du bien-être, aujourd'hui appelé le régime de l'argent, et dans lequel il n'y a plus de distinction entre le politique et entre l'économie et le politique. L'État et les banquiers sont les mêmes.
La dificultad está en que yo he dado un salto en cuanto he explicado la relación entre el dinero y la escritura y que la lengua se escapa de esa condición dineraria de la realidad.
Donc, elle a fait un parallèle entre l'écriture et le langage, et en fin de compte, on s'aperçoit que l'argent fait que l'écriture devient une marchandise, un rapport d'argent, et c'est une différence fondamentale.
La otra cosa que he relacionado es que hoy día, más que nunca, la realidad es esencialmente dinero. Dinero porque está medida, es lo mismo ahora mismo la economía que la política. No hay distinción entre el Estado y el capital, es lo mismo.
Y aujourd'hui, il n'y a pas de distinction entre le capital et l'État. C'est absolument la même chose qui existe par rapport à l'écriture.
Et tout est régi par l'argent.
Et c'est comme ça, la réalité est essentiellement argent. En ce moment, le pire des régimes, c'est le régime de l'identification entre l'État et le capital, c'est le régime de l'argent. C'est dommage, justement pour ça. Beaucoup d'entre les soulevés ou anarchistes s'ignorent des différences entre l'écriture et la langue et on arrive à attribuer à la langue des choses comme un machisme, oubliant que la langue n'est de personne, que par conséquent elle ne connaît pas de différence entre les sexes. On confond quelque chose qui appartient aux règles de bien parler avec le langage, la grammaire que on parle.
Yo quería relacionar la cuestión del dinero cómo aparece hoy día, cómo se impone en forma de tiempo, la creencia en el tiempo. Hoy día vivimos de un modo acelerado. Nuestra vida es entretenimiento, nos llenan constantemente la vida con velocidad, no hay posibilidad de olvidarnos del horario y la administración constante de los minutos de nuestra vida.
Dans ce rapport d'argent, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui le temps s'est accéléré de la manière dont on vit, c'est-à-dire que tout est considéré comme sous la forme de la rentabilité, la nécessité d'accélérer le temps pour être plus performant. Et c'est probablement aussi ça qui a fait qu'une transformation a été provoquée.
Il ne s'agit pas de la célérité, il s'agit du temps. Le temps, c'est-à-dire le temps des calendriers, c'est justement l'ennemi de la vie. Et la lutte n'est pas seulement contre l'accélération, mais contre le temps. Lui-même.
Ce qu'il faudrait, c'est que tu définisses ce que tu entends par le temps. Je pense que les auditeurs, les auditrices comprennent parfaitement la vélocité, la vitesse. En revanche, le temps, si tu veux, ça a une signification qui est assez large et peut-être assez floue.
Pour moi, c'est très clair, mais contraire aux idées qu'on a d'ordinaire. Pas seulement les gens qui sont au service du capital et de l'État, mais aussi les gens plus ou moins rebelles. Le temps de l'histoire, le temps des calendriers, le temps des horloges, c'est un temps qui est là, comme si c'était sur une plaine, sur une page. Et c'est là que les heures, les minutes, les ères géologiques, les siècles sont écrits. Chaque fois qu'on dit. Maintenant, ahora, now, on est en train de tuer le temps à tel point, maintenant, et à dehors du temps. Ahora et l'ahora. Now et the now. on ne peut pas comprendre. La même confusion qu'on fait quand on confond moi ou je avec le moi, le je. Ce sont des esclaves, sont des soumis, sont déjà des soumis à la réalité, tandis que moi, je, ne l'ai pas.
El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla, ay de mi vida. Allí sonará la lluvia, junto al fuego en las noches frías, tendrá agosto en el río barca y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro, la negra flor de la tinta, ay de mi vida. Que vengan los amigos y que era digan, era un hombre y te quiso mucho, y mucho llorando diga, es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay de mi vida. Las palmeras echan esmeraldas, allí las crían del delfín esmeraldas pasen, allí no hay noche ni día, cuando ordeñan a los rebaños de púrpura el mar se agría, ay de mi vida. Limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva, no hay naves de arar espumas ni arado para las viñas, el gran árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga, ay de mi vida. Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora, ay de mi vida, ay de mi vida. Ay, de mi vida.
Ay, de mi vida. Ce qui est évident dans ton travail, c'est la critique très radicale que tu fais des pouvoirs. Et moi, j'aimerais que tu réagisses à un certain nombre de mots qui sont des éléments importants de ces pouvoirs. Comment tu réagirais par rapport aux idées, par exemple? Tu as dit qu'il fallait être contre les idées. Et à un moment donné, tu as dit qu'il fallait être y compris contre l'anarchisme.
Il y a quelque chose qui parle à travers moi. Quelque chose qui n'est pas moi. Tout ce que j'ai dit ne vaut rien. Mais il y a toujours quelque chose qui échappe et c'est ce qui importe. Seulement, distinguer des régions, des noms et des idées courantes. Les idées élémentaires sont celles qui sont reprises par les mots d'une langue quelconque qui sont dans les dictionnaires, dans les lexiques. Ce sont les plus élémentaires. Il y en a par-dessus, introduites d'en haut, de la partie de l'école, à partir de la littérature, de la philosophie. La lutte contre le pouvoir doit naturellement s'adresser d'abord à ces idées dernières et respecter les noms, les mots que le peuple use. Et le langage de la science, hein, qui est aujourd'hui la religion dominante, qui est devenue un langage mathématique, quand on dit quelque chose qu'on ne peut pas traduire dans des mots, dans les langues courantes, et c'est quelque chose pour maintenir le mensonge, la foi, qui sont les soutiens, les principaux soutiens du pouvoir.
Hay que hacer notar que precisamente el poder en los regímenes más desarrollados está empeñado especialmente en la libertad de la expresión personal, de las opiniones personales.
Il repose esencialmente sur l'idée de la expresión personal, de la libertad de expresión.
La idea de cada cual acerca del mundo, la opinión de la cual las televisiones hacen gala constantemente, de mesas redondas, de encuentros, en que cada uno dice su opinión personal, para hacer mucho ruido.
Donc dans les télévisions, par exemple, on organise très souvent des tables rondes pour que chacun puisse s'exprimer. Mais autour de ces tables rondes, on fait beaucoup de bruit, on parle beaucoup de ces choses-là.
Este ruido tiene la función esencial de que si alguien dice verdad, no se le oye.
L'important avec tout ce bruit, c'est que si quelqu'un parmi l'assemblée dit quelque chose de vrai, on n'entend pas.
Ce qui s'appelle bien de dire est révélateur. Surtout à propos de ce qu'on entend par liberté, comme quelque chose qui n'appartient pas à l'individu, qui n'appartient pas au moi, à la personne, mais qui est là pourtant. Dans la liberté, évidemment, dans les idées qu'on fait de la réalité en général, il n'y a pas de vérité, ce n'est pas possible. Et s'il y a vérité, c'est quelque chose qui reste en dehors de la réalité. C'est-à-dire que vient de l'eau ou bien vient d'en bas, de ce qui reste en dessous de la réalité.
Quiero recordar que ya en el 1936, Antonio Machado, en un libro que se llama Juan de Mairena.
En 1936, Antonio Machado, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un grand poète espagnol qui est mort en exil tout de suite après la retirada, comme on a appelé ça en Espagne, dans le livre qui s'appelle Juan de Mairena.
Recomiendo su lectura a cualquiera. Que quiera dejarse pensar.
Je recommande la lecture de ce livre pour ceux qui veulent apprendre à penser.
A pesar de su antigüedad, es absolutamente actual respecto a la cuestión de la opinión personal, de esto que hablábamos de. Él dice, él hace esta pregunta, formula, ¿de qué nos valdría la libre emisión ou expression d'un pensamiento esclavo?
Que nous vaudrait la libre expression d'une pensée esclave, il dit dans ce texte à un moment donné.
Exactamente, es lo que sucede ahora. Hay la libre expresión de pensamientos esclavos.
C'est ce qui arrive aujourd'hui, on a la libre expression de pensée esclave.
Quid dedicatum poscit Apollinem, vates quid ora de pater annuum, fundens liquorem non opima. Sardinia esse getes feracis afrotambu fado ingaracum barasemele señora del amor, la del vientre azul, paloma de oro y madre de rosas, oh, ungida de sudor de mirra. Diosa del mar de risueño llanto, afrotambú, fado ingarajum barasemele. Tú que en tus pechos das a pacer a cien, asnos en celo, abrevas del corazón.
de la granada de tu cuerpo, larga la sed de los paraísos, afrotambú, zado y carajú para sembelé. Señora, escúchame a mi rezo tú, la santa oreja vuelve y a venir. Aquí a mi casa, aquí a mis brazos, amarilo, la de mansos ojos, afro, tambor, zaduín, garajum, arasembele. Y por tu mano, tráela, tu mano pon en su cintura y tráela así como un aliento de canela empuja. Mástil en flor por el mar antiguo, afrotambú, faduín, garajum, barasembele.
Tu as écrit un livre qui en espagnol s'intitule « Qu'est-ce l'État ?» ou « Qu'est-ce que l'État ?» qui a été traduit en français par un vieux compagnon, Fernando Aguirre, qui malheureusement est décédé aujourd'hui et à l'atelier de création libertaire. Il a été édité. Qu'est-ce que l'État alors pour toi ?
La façon dont j'ai parlé, dont j'ai employé les mots « État », « argent », « le moi », etc. peut dire ce que chaque chose est mieux qu'une définition. Je n'aime pas les définitions. Les mots, les noms ne sont pas bien définis. Et c'est mieux la langue, en parlant, en les employant, qui fait sentir. Enfin, je pourrais dire beaucoup plus, mais je n'arriverai jamais à définir, parce que ce que j'essaie chaque jour et partout, c'est de contre-définir, de mal inventer, de mensonger dans le mot État. Un rebelle qui emploie les mots sans se rendre compte de ce qu'il y a de faux dans les mots, que sa lutte devienne inutile. Il n'y a pas un mot, surtout un mot venu d'en haut, qui soit innocent.
Pero si la función esencial del Estado es la administración de muerte, no nos debemos de entretener demasiado en formas de Estado brutales o dictatoriales para entretenernos, sino de lleno afrontar el modo de aparición del Estado de hoy día, del Estado desarrollado.
Si l'État aujourd'hui c'est l'administration de la mort, nous ne devons pas perdre du temps à essayer de définir tout ça, parce que en fin de compte c'est simplement l'administration de la mort.
El problema es el modo en cómo el Estado se ha interiorizado en esto que llamamos el individuo, en el cada uno. Hoy día pues los Estados permiten ser live, ser flojos, débiles, el yo, el individuo se ha estatalizado 100%.
L'individu s'est étatalisé. Aujourd'hui, on trouve des États qui sont plus soft, plus permissives qu'auparavant, mais en fin de compte, l'individu est toujours dominé.
Il est difficile, même pour un révolutionnaire, laisser croire dans les idées, dans les mots qu'il n'aime pas. Encore plus, de renoncer vraiment à être espagnol, ou français, ou même européen, ou américain. C'est-à-dire que la condition de l'État, sous son nom propre, hérité des aïeux, subsiste malheureusement. Beaucoup de révolutions se font sous un drapeau qui, malgré tout, est national. Il faut lutter contre cette difficulté et s'oublier. La nationalité de l'endroit où on est né, mais encore le plus difficile, c'est de laisser de croire en cette autre patrie qui est l'homme lui-même. Et c'est très difficile. Une révolution, une science, un raisonnement qui se sort de cette soumission à l'idée de l'homme, on continue à croire que tout ce qu'on dise, tout ce qu'on fasse, c'est pour le bien de l'homme et pour la grandeur de l'homme.
Oui, alors là, tu viens d'employer un terme, en plus de ça, moi, qui me fait un peu bondir. Tu as parlé de l'homme, j'imagine que c'est au niveau de l'être humain. Donc déjà, je trouve que c'est biaisé quelque part, parce que l'homme, il y a la femme aussi. Tu l'as dit trois fois, homme, en plus de ça. D'autre part, je pense que dans la définition de l'État, c'est vrai, tu as totalement raison. Et Isabelle le disait, elle a dit, en fait, l'État, c'est le contrôle. Plus ou moins doux, plus ou moins soft, peu importe, c'est le contrôle. En revanche, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les définitions, je suis d'accord avec toi, c'est complètement aléatoire. En revanche, les contre-définitions, ce que tu apportes en plus, est-ce que ce n'est pas quelque chose, justement, qui permet de lutter? Je prends un exemple. Par exemple, aux États-Unis, et du coup, même en Europe, on utilise, pour parler des États-Unis, on dit les Américains. Les Américains, si tu réfléchis, les Américains, c'est l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Or, on continue à utiliser Américain pour les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, il y a une prépondérance, c'est un impérialisme de fait, de la langue, qui continue à être utilisé tout le temps.
Tu viens de choisir un exemple qui signifie l'hérédité beaucoup plus profonde. Les hommes de mon sexe ont pris l'habitude de prendre le nom comme quelque chose qui leur appartient. Et ce que tu as raconté à des Américains, c'est la continuation de ce que j'ai dit contre le patriotisme. C'est un peu ce qu'on vient découvrir de l'Athénée. Il faut apprendre à se reconnaître comme chose. C'est le mot que je trouve le plus innocent de tous, le mot « chose ». Et c'est pour moi la forme la plus raisonnable de se séparer de l'homme.
Sí, es que está claro que todo se ha regido hasta ahora por eso de que el hombre es la medida de todas las cosas.
Tout a été régi jusqu'à maintenant parce que l'homme a toujours été considéré comme la mesure des choses.
Ya en el Génesis, que es nuestro mito esencial religioso.
En el Génesis, que es el mito esencial au niveau religieux.
El hombre toma la palabra y le quita la palabra a los animales.
L'homme prend la parole et enlève la parole aux animaux.
Por este orden, luego se le quita la palabra a las mujeres, a los niños. En definitiva, es el hombre o lo que quede de hombre dentro de la hembra.
On ôte la parole aussi aux femmes, aux enfants. Donc, qui garde la parole, c'est l'homme. Mais en fin de compte, ce qui reste de l'homme, qui n'est que la femelle.
Que haya de hombre dentro del niño. Que para eso se va fabricando un niño como un hombrecito.
Qu'il y a d'homme dans l'enfant, parce que chez l'enfant, tout petit, on lui donne déjà, on le forme en tant qu'un petit homme, un futur homme.
Cuando el Estado dice la cuota femenina en el poder es del 50% de mujeres, está diciendo que hay un 100% de hombres, porque el 50% de mujeres que han llegado al poder son ya hombres y hombres más refinados.
Quand l'État dit qu'il y a 50% de femmes au pouvoir, en fin de compte, c'est 100% d'hommes qui sont au pouvoir parce que le 50% de femmes ont été intégrées les valeurs de l'homme. Donc, elles sont représentatives des valeurs de l'homme.
La conviction des féministes, au lieu de reconnaître ce qu'on voit, c'est-à-dire que la détente du pouvoir masculinise les femmes, on croit que un jour, ça va à l'envers. Quand les femmes occupent le poste de pouvoir, le pouvoir va devenir féminin.
Oui, mais ça, c'est parce que c'est encore, on est dans ce que nous a appris l'État et l'éducation, ce qu'est une femme. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme et je ne sais pas ce qu'est un homme.
Te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mira.
como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera.
Lorsque tu t'es adressé aux indignados en Espagne lors du mouvement des indignés au printemps dernier, tu as évoqué la question de la démocratie. Moi, je me souviens qu'en France aussi, on peut trouver un livre qui s'intitule « Contre la guerre, contre la démocratie » où tu précises ce que tu penses de la démocratie en tant que leurre pour l'humanité.
Je reviens sur la confusion de ces jeunes gens qui m'ont accompagné pendant beaucoup de mois. Confusion pas seulement, et ce qui se réfère à la démocratie, c'est plus général. Après le 15 mai de l'année dernière, il y a eu deux tendances. Une tendance era à l'action. Et l'action veut dire employer les assemblées qui s'étaient formées d'une façon vraiment imprévue, à les profiter pour faire des plans, au lieu de profiter les assemblées pour parler comme en ce moment des choses, apparemment les moins politiques du monde, mais que je crois que justement les plus politiques. Non, ce qui m'a déçu après le premier jour, c'était de voir qu'on appelait, on demandait une vraie démocratie. Non vraie, mais une démocratie réelle. Depuis que ce truc a été inventé chez les anciens Grecs en plusieurs des États, qui a tué Socrate. Enfin, plus insupportable pour les gens, ¿no? Y, comme tous les autres régimes.
Hay que reconocer que en España tiene mucho prestigio eso de la democracia, porque el peor oficio de las dictaduras es hacer luego soportable cualquier forma de gobierno.
Il faut dire qu'en Espagne, la démocratie est une valeur extrêmement importante parce que le fait est que les dictatures sont là pour faire supporter une quelconque manière de gouverner.
Es así que en las manifestaciones de las asambleas de nuestros jóvenes indignados en la Puerta del Sol era un tema muy a debatir, porque la mayoría eran hijos de personas que habían vivido bajo la llamada dictadura, ¿no?
Le terme démocratie a énormément de prestige, parce que les gens qui utilisaient ce terme durant les concentrations étaient en fin de compte des enfants de gens qui avaient vécu sous la dictature. Et c'est vrai que le terme démocratie garde une valeur extrêmement importante aujourd'hui en Espagne encore.
Es que allí los viejos que se acercaban caminantes, que deambulaban por allí, una de las preguntas, entonces, ¿qué creéis? ¿Que volvamos otra vez a la dictadura? O sea, como si fuera un feedback, un circuito cerrado, o esto o algo peor.
Sí, la plupart des gens qui étaient là d'un certain âge déjà, lorsqu'ils côtoyaient ces jeunes sur la place, leur demandaient, mais vous voulez quoi en fin de compte? Vous voulez un retour à la dictature? Et c'est comme un feedback, quelque chose qui revient comme ça incessamment.
No hay que engañarse, democracia es eso que tenemos, es lo que padecemos. Y entonces esa es la real, la única que tenemos, y desde luego eso está fundamentado en el gobierno y poder del Estado interiorizado en el individuo. Por ejemplo, términos como lo común y la comunidad, tan usados por las democracias, son meros sustitutos, son palabras vanas.
La democracia, il est clair que c'est un instrument de domination depuis toujours, et les gens ont totalement intégré cette dimension en eux.
Que la democracia está hecha por la suma de llamados individuos democráticos. La masa es eso, suma de individuos democráticos, cada uno con su yo personal, regido desde arriba por los medios de formación de masas.
La democracia, elle est faite par des individus qui portent en eux ces valeurs, et ils sont dominés par les moyens d'information de masse, par l'État, tout à l'heure tu disais aussi.
Por ejemplo, ellos manejan mucho las democracias desarrolladas, términos como comunidad, la comunidad, y es una palabra vacía. Hoy día lo común está usurpado, sustituido por el individuo.
Oui, ils utilisent beaucoup dans leur langage le terme communauté. Aujourd'hui, il y a les communautés de communes, les communautés d'intérêt, enfin, il y a différentes formes de communauté. Mais en fin de compte, c'est une façon de substituer avec ces termes ce qu'il y a de commun en chaque individu, quoi, dans les rapports entre les individus. Et c'est une usurpation.
J'avais oublié de dire ce qu'il dit d'ordinaire dans ce cas qui est l'exemple de la communauté de voisins, qui est la communauté de propriétaires. Pour devenir défenseur de la mémoire historique, ce qui s'est manifesté par la Puerta del Sol, s'est manifesté demandant qu'on garde la mémoire de leurs morts. Mais il s'agissait de non, et par conséquent, c'est garder la mémoire de leurs morts, etc. C'est une question qui nous mènerait trop loin. La question des mémoires, il y a une mémoire qui connaît les noms propres, qui connaît c'est la mémoire qui règne, etc. Mais qui après ça, il y a une autre chose qui est une mémoire vivante, qui consiste à vivre. Beaucoup de fois, nous constatons que dans cette réviviscence, pour ainsi dire, que vraiment on vit ce qu'on vit.
La question de la mémoire historique en Espagne, c'est devenu un thème extrêmement important aujourd'hui, alors que pendant des années, on a occulté ce thème. Bon, ça peut, évidemment, on le sait, c'est dû à la transition démocratique qui a complètement exclu la question de la mémoire historique, de la répression sous le franquisme, et avant et après le coup d'État militaire de Franco. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, je voulais t'en parler, on voit qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui font partie des associations de la mémoire historique. Moi, j'ai été frappé en Aragon, par exemple, de voir des jeunes, les week-ends, aller faire des excavations dans les fosses communes. Et en parlant avec eux, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une vraie volonté de dépasser cette occultation, quoi, et de mettre vraiment en évidence ce qu'ont été les crimes du franquisme. Qu'est-ce que tu en penses ?
Qu'est-ce qui t'étonne, qui t'y déroute toi-même ?
Non, non, moi j'ai été touché. Bon, je suis aussi fils de réfugié espagnol, et je sais que c'est un thème important pour nous aussi, les héritiers, les enfants, les petits-enfants. Et j'aimerais que tu nous parles de ce thème-là, de la mémoire, du développement aujourd'hui, de ces associations. association de ces gens qui, des gens comme Octavio Alberola, qui, avec Antonio Martín, des gens qui ont travaillé sur la question de Delgado et Granado, qui pour nous les libertaires étaient extrêmement importants. Est-ce que tu as appuyé leur démarche? Comment tu te situes par rapport à tout ça?
Pour ce qui est de la mémoire, je crois que j'ai dit déjà que cette mémoire, c'est une mémoire morte et qui ne vaut pas la peine de défendre ça comme si c'était la vie ou comme si c'était la liberté ou comme si c'était la révolution. Ça n'a pas de sens. Pour la partie générale de ta demande, il y a beaucoup, beaucoup de temps que je me suis fait ami des gens que parfois on appelle racistes ou acrates, comme la police nous appelait, moi comme les étudiants, à l'année 65. Mais ce que j'aime chez eux, ce qui m'a fait ami, ils sont en général ouverts et à quelques doutes. C'est ce qui m'a fait ami. C'est important ça, c'est pas de ne pas croire en ce que les mots. Quand je parle avec les nazis, c'est surtout pour leur dire qu'ils se trompent. On ne peut pas marier des choses qui sont immariables, comme la lutte avec les résignations, l'acceptation des termes, des mots, par conséquent des réalités. Et en même temps, je le fais avec beaucoup de sympathie.
Tengo tanta simpatía por los muertos que esto me obliga a no confinarlos a su condición de muertos.
Moi, j'ai beaucoup de sympathie par rapport aux morts, mais tout ça me confine à ne pas avoir de respect pour leur condition de mort.
Y sobre todo a que no dar pie para que se usen mediáticamente.
Et surtout ne pas permettre qu'on les utilise médiatiquement.
Como un sustituto de fantasmas antiguos que vienen a entretenernos de los fantasmas de hoy.
C'est un substitut de fantômes anciens qui viennent nous divertir par rapport aux fantômes d'aujourd'hui.
Cuento una anécdota de la asamblea de la Puerta del Sol, en la que todos los jueves giran con sus fotografías de los muertos los de las asociaciones de la memoria histórica.
Chaque semaine, les gens des associations pour la mémoire historique font des rondes autour de la Puerta del Sol avec les portraits de leurs morts.
Al mismo tiempo, jueves a las 8:30, había la asamblea de los indignados. Bueno, no de los indignados, la asamblea esta en la que participaba Agustín, yo y otras gentes.
Tous les jeudis, il y avait donc une assemblée dans laquelle nous participions tous avec Agustín et d'autres.
Y se originaba un conflicto de altavoces.
Et un conflit sonore était généré à travers les haut-parleurs.
Cada uno hablaba de sus muertos.
Chacun parlait de ses morts.
Nosotros contra la administración de muerte. Entonces, uno de ellos vino a decirme, uno de la asociación, que teníamos que dejar que los otros hablaran, o sea, se manifestaran, vamos, que estaban ellos y que nosotros nos calláramos.
Donc il y a quelqu'un qui s'occupait de l'administration des morts qui est venu nous trouver en nous disant qu'il fallait les respecter dans ce qu'ils étaient en train de faire et qu'il fallait qu'on se taise.
Yo le dije que yo no distinguía entre la voz de los muertos, esos, y la voz viva de lo que allí se estaba diciendo para que no hubiera más muertos.
Je lui ai dit que je faisais la distinction entre ce qui se passait là-bas à propos des morts et aussi de ceux qui étaient là bien vivants et c'était quelque chose de plus important que la voix des morts.
Estábamos desenterrando a los muertos.
Là, on était en train de désenterrer les morts. Dans ton allocution à la Puerta del Sol, devant les indignados, les indignés, tu as rappelé à ce moment-là le fait qu'il y a plus de 40 ans, il y a eu un véritable soulèvement de la jeunesse à Madrid, et à l'université notamment, et que durant ce soulèvement, tu as participé, et tu as perdu d'ailleurs ton poste de professeur de l'université, tu as été exclu de l'université. Donne-nous quelques éléments. Comment tu te retrouves donc exclu? Et comment tu es amené à t'exiler et comment tu te retrouves à Paris à ce moment-là?
Et c'était en quelle année?
Bon, ce que j'ai dit aux gens du 15 mai, quand je les saluais comme la joie de l'inespéré depuis 42 ans. En effet, l'année 65, à Madrid, a arrivé une vague de rébellion qui parcourait tout le monde et cette vague m'a emporté. C'était la même rébellion qui, après, s'est développée en Allemagne, par exemple, con Rudi Dutschke, et finalement avec le mec français, qui fut le grand fait final, non ? Mais c'était pas tout ça. Ces années, c'était les années de l'établissement de l'État. La forme d'État, où État et capital sont parfaitement intégrés. Et la rébellion de l'année dernière, c'était une résurrection de la même chose. Enfin, ça m'a coûté. On m'a expulsé du corps de l'université et j'ai resté presque 4 ans à Madrid avec un peu de travail parce qu'on m'arrêtait. La police m'arrêtait presque continuellement et me faisait visiter le sous-sol de la Puerta del Sol.
Direction générale de la sécurité, non ?
À la fin, je suis venu en France, croisant les Pyrénées par la petite ronde, avec l'aide de jeunes gens qui connaissaient un peu le chemin. C'était un sentier qui était peu visité par la Guardia Civil. Et on s'est venu à Paris. Par le jour où l'homme a marché sur la Lune.
La Boule d'Or, c'était un café qui n'existe plus malheureusement à Paris. Oui. Les tertulias, il faut le dire, c'est des cafés littéraires où bon, les gens viennent discuter de littérature, de poésie. Et tu avais importé en France les tertulias espagnols. Il y avait des vieux copains qui étaient là et qui se souvenaient encore, comme Lucio Urtuia, de la Boule d'Or, où ils venaient écouter les différents intervenants.
Oui, on a passé par d'autres cafés au bistrot. Où était la Boule d'Or, qui est naturellement disparue. Et comme ça, mon exil était dans les terrains, entre Lille et Paris. Et quand on a annulé le décret d'expulsion qui pesait sur moi, ça m'a coûté beaucoup d'abandonner Paris. Et à la fin du 76, j'ai pris mon poste à l'université Complutense, à Madrid.
Ni derechas ni izquierdas, entre arriba y abajo, está la pelea. Amor de nadie, volando por los aires, amor mío, en mis manos, siempre herido. Entre la luz y la sombra, algunas cosas de nada que están porque se las nombra.
J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver, pendant que le vulgaire était tout emmouflé. Je soufflais sur mes mains à son cul, à son nez. La Tipax et Bourgeon sortaient m'en jouer un air. La Tipax et Bourgeon sortaient m'en jouer un air. Le printemps, ça s'invente et ça se fout en tôle. Le printemps, c'est ma mine avec ses airs de chien qui vient tout ébahi me montrer tout son bien. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Eh oui, c'est ça, monsieur, le printemps des poètes. Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons. Un quart d'été, un quart d'automne et des chansons. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. On va faire des pique-niques du côté des ballots. On va se mettre au vert en croyant aux histoires. Et l'on se sent mourir au bord d'une guitare. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Seul qu'il faut de désir aux heures de l'ennui. Et ce qu'il faut mentir pour que manquent les choses. Ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. Jamais ne vient l'avril dans le fond de mon cœur. Cet éternel hiver qui bat comme une caisse. Qu'on clouerait sans répit depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs. A décidé d'aller se faire teindre ailleurs.